Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et sur les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités, affirmé en 1959 l'écrivain Albert Camus. Ce n'est pas si souvent que nous parlons de ballon rond qu'on pousse vers des cages dans une émission de théâtre. Et ce, même si le stade de foot, comme la scène du théâtre, est un espace avec sa durée propre, ses lois, son langage, ses interdits et ses interprètes. Et ce, même si un jeune artiste contemporain, Mohamed El-Khatib, a cette saison fait entrer dans le prestigieux Théâtre National de la Colline à Paris des supporters en chair et en os du Racing Club de Lens pour un spectacle intitulé Stadium, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et ce, même si un performeur suisse nommé Massimo Furlan, présent avec nous aujourd'hui, qui n'a rien de fouteux mais tout d'un artiste, a reconstitué tout seul sur une pelouse les moindres faits et gestes de Michel Platini, numéro 10 de l'équipe de France en 1982 à Séville, lors d'un match de Coupe du Monde resté dans les annales. Nous ouvrons donc aujourd'hui le chapitre football d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art où, sur les bancs de touche, ce sont, une fois n'est pas coutume, non pas les joueurs mais les spectateurs qui s'installent. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
Bossis qui s'en va à grande enjambée, qui laisse cette balle à Platini. Platini pour Battiston, Battiston qui tire, ah, et à côté, oh là 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 là. Battiston s'est infiltré, il a tiré et le ballon est passé de peu à côté. Battiston qui est même complètement KO, car il a été accroché. Tous les joueurs français viennent protester et faire de grands signes à l'adresse des joueurs allemands, et notamment le gardien Schumacher, coupable de s'être jeté sauvagement sur Battiston qui est allongé. On appelle les soigneurs, là l'arbitre appelle également la civière, nous revoyons l'action. Battiston qui tient des 18 mètres et Schumacher qui se jette les deux pieds en avant.
Bonjour Massimo Furlan.
Bonjour.
Alors léger anachronisme, I Will Survive, c'était 98 hein, et pas 1982. Merci de nous retrouver au micro d'une saison au théâtre. Nous venons avec ce très court commentaire sportif diffusé le 7 juillet 1982 sur France Inter d'entrer de plein pied dans un sujet qui vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup occupé et mentalement et physiquement, puisqu'il s'agit de cette Coupe du Monde qui opposait la France de Michel Platini à l'Allemagne de Schumacher. Que s'est-il passé à Séville en 82, Massimo Furlan, qui a stimulé l'imaginaire de l'artiste que vous êtes au point de mener à bien une opération dont nous allons parler dans cette émission, tout à fait singulière, reconstituer ce match sans ballon et sans équipe allemande.
Bon bah tout ça, c'est né de non pas forcément précisément sur ce match, cette demi-finale de 1982. En fait, ce projet, il est né dans ma pratique du théâtre inconsciente, on va dire. En fait, je reviens à l'enfance. Où gamin, je m'enfermais dans ma chambre et je m'inventais des matchs de football tout seul. Je transformais ma chambre en stade, instantanément. Grâce à l'imaginaire, ben voilà, j'étais capable de me projeter dans une figure héroïque qui était celle, ben voilà, de mes rêves. Être footballeur, être un héros. Et donc voilà, je m'inventais des matchs, je me les commentais d'ailleurs, ce qui me permettait de mettre Furlan avant-centre et buteur et champion du monde plusieurs fois par soirée. Par ailleurs, un palmarès de footballeur en chambre extraordinaire, hein, des centaines de Coupes du Monde.
Vous étiez toujours vainqueur, vous n'étiez jamais le battu.
Alors non, ben justement, il y avait aussi, parce que voilà, tout ça était assez complexe hein, quand même, il y avait le bureau qui était le goal. Hein, c'était le goal où je devais faire mes devoirs, mais voilà. Et la chaise sur laquelle je devais m'asseoir pour faire mes devoirs était le gardien. Mais c'était une petite chambre, donc il y avait aussi un lit et tout, et donc ça mettait pas mal de défenseurs, et donc j'ai subi aussi des fautes terribles dans cette petite chambre-là, et qui m'ont valu des arrêts de travail parfois de plusieurs semaines avec des orteils fracassés, etc. Quoi. Cette pratique-là, et je le dis presque avec un peu de honte, parce que je l'ai faite pendant des années et des années. Hein. Ça n'a pas duré juste quelques semaines et tout.
Soyez clair, c'est-à-dire vous l'avez faite jusqu'à l'adolescence,
Je l'ai faite jusqu'à l'adolescence. Non, je l'ai faite même beaucoup plus tard.
Ah oui.
C'est-à-dire que lorsque j'étais plasticien, c'est-à-dire que je peignais, j'avais un très grand atelier. Et en fait, j'ai passé des journées à me refaire des matchs de foot tout seul. C'est un peu un aveu que je fais là. D'ailleurs, j'ai démoli un nombre de peintures aussi assez impressionnant, quoi. En fait, j'ai pas pratiqué comme véritable footballeur. J'ai jamais appartenu à une équipe. J'ai fait, voilà, je vais l'avouer aussi, j'ai fait quand même une saison, mais j'étais déjà vieux, dans une équipe de la dernière catégorie possible en Suisse. Et ça a été un cauchemar terrible. J'ai marqué un goal et je me suis cassé le pied. Ça, ça a été mon expérience.
Vous dites marquer un goal, vous dites pas marquer un but.
Non, alors ouais, on a une terminologie en Suisse qui est parfois un peu différente. Comme je disais, attendez, tout le monde riait ici avec les gens de Colombes quand je leur disais tirer sur la latte. En fait, c'est la transversale et tout. Enfin, donc on a quand même quelques particularismes.
Alors Colombes, on va le dire tout de suite parce que sinon les auditeurs vont pas comprendre. Il y a 2 semaines à Colombes, ce match de 1982 France-Allemagne a été joué par des amateurs qui ne sont pas non plus des footeux, qui ne sont pas non plus des acteurs, qui sont toutes générations confondues, hommes et femmes, et qui ont reconstitué, comme vous l'aviez fait vous-même au Parc des Princes tout seul, eux ont reconstitué le match dans son intégralité, sans ballon et sans équipe allemande.
Exactement. Avec tous les gens, filles et garçons de cette équipe, lorsqu'on a parlé de pourquoi faire ce projet, je leur expliquais pour moi mon ressort, etc. Après, on a justement fait un comme ça. Chacun s'est raconté au travers de ce match-là, de cette demi-finale-là, et c'était formidablement beau et émouvant de voir comment, enfin, chacune a un lien avec ce football, avec cet événement en particulier ou un autre, enfin, qui sont évidemment liés à des liens familiaux aussi.
Michel Platini, moment extrêmement important. Platini, le capitaine français, qui va tirer ce pénalty qui est face au gardien allemand, Harald Schumacher. Platini qui s'élance, qui frappe et qui marque. But !
Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce lien à la mémoire, moi c'est ma propre mémoire, autobiographique, en me repenchant sur ce moment-là, seul dans ma chambre. En fait, je me suis aperçu parce que voilà, après avoir quitté les arts plastiques et être entré par la petite porte dans la performance et l'expérimentation dans le spectacle vivant et tout, etc. Je me suis rendu compte au fond que c'était un acte d'acteur. Je jouais, quoi. C'était quelque part, j'incarnais, voilà. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait réfléchir et questionner, là, qu'est-ce que c'est être acteur? Où est-ce que ça commence? Comment on le devient? Est-ce qu'en fait, on le devient et on le devient plus? Enfin, on ressort, on re-rentre là-dedans, dans nos vies, comme ça. Et donc, autant lorsqu'on rentrait en Italie avec mes cousins, on s'enfermait, et mes cousines, on s'enfermait pendant des jours avant de présenter le cirque à mes grands-parents. On faisait tous les numéros du trapéziste, dompteur, moi je faisais l'éléphant, enfin, etc. Ces moments-là, au fond, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que voilà, ils convoquent quelque chose, malgré qu'on infligeait à mes grands-parents 3h30 de spectacle.
Vous auriez mieux fait de jouer un match de foot de 90 minutes.
Hein,
à vos grands-parents, Massimo.
Absolument.
Touche en faveur des Allemands.
Mais pourquoi ce match-là? Pourquoi ce match de 1982? Parce que il y en a eu d'autres, des matchs, et pas seulement entre la France et l'Allemagne, et des matchs avec une dimension aussi tout à fait singulière qui ont marqué les esprits. Vous auriez pu prendre Maradona, par exemple.
Bien sûr, mais d'ailleurs, lorsque j'ai créé cette performance, je l'ai créée d'abord en Suisse, mais je l'ai jouée aussi en Italie, je l'ai recréée en France, en Allemagne, en Pologne, en Belgique, etc., etc. Et donc, à chaque fois, il y a cette question de la mémoire collective. C'est-à-dire de l'histoire aussi, non seulement du football, mais de ce moment d'un match qui crée un événement auquel, voilà, le collectif, les gens peuvent se rattacher parce qu'il correspond à une victoire ou à une défaite, à un moment de l'histoire du pays, enfin, voilà, qui symboliquement, en tout cas, intervient dans un moment, de cette histoire-là. Et donc, la proposition était de le faire en France. Deux choses, moi, m'intéressaient, c'était la figure de Michel Platini. Platini, voilà, on va dire fils d'Italien, donc me retrouvant quelque part aussi dans cette filiation, dans la mesure où mon père a failli être joueur professionnel à l'époque, comme ça. Et bien sûr, ce Platini devenu le numéro 10 de la Juventus de Turin par la suite. Et je crois que ce match-là, cette demi-finale-là, est d'une part un des plus beaux matchs de football, tout match confondu dans l'histoire du foot. Je ne les ai pas tous vus. Mais enfin, il est extraordinaire dans sa dramaturgie.
Une nouvelle attaque allemande extrêmement dangereuse alors que l'arbitre, le Hollandais, Monsieur Corver, est en train de regarder son chronomètre. C'est pratiquement terminé en ce qui concerne cette première mi-temps. C'est même terminé. Les deux équipes sont à égalité. Un but partout.
Mais alors qu'est-ce qui fait événement dans la dramaturgie de ce match en dehors de la sortie de Batiston dramatique sur une civière?
Déjà ce moment où on se rend compte que cette équipe de France est formidable. je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens à l'époque pensaient que cette équipe de France potentiellement pouvait aller en finale et potentiellement la gagner, quoi. Et donc tout d'un coup on se rend compte de ça. Cette équipe est magnifique, elle est légère, rapide, technique, elle présente un jeu absolument magnifique. Et puis voilà qu'elle perd 1-0, elle revient 1-1. Ensuite voilà toute une deuxième mi-temps où c'est pas qu'il ne se passe rien, au contraire, il se passe là aussi bien sûr le drame Batiston, hein, cette tragédie. Enfin voilà, il y a des occasions, des blessures moindres, etc. Puis les prolongations. Et puis c'est le 2-1 et c'est le 3-1. Et là, c'est vraiment l'espoir fou d'être en finale. Enfin, c'est quasiment l'assurance d'être en finale. Et la malédiction fait, et le mauvais arbitrage peut-être aussi. Enfin, faut voir de quel côté on regarde le match. Mais enfin, c'est le 3-2, c'est le 3-3. Et puis c'est cette séance de tir au but qui est véritablement, enfin voilà, c'est une torture, c'est un tirage de loterie, mais il y a une tension incroyable. Et c'est l'échec final de Batiston. Et donc c'est quelque chose où on expérimente par la défaite aussi une tristesse incroyable, que vous ne ressortirez pas d'un théâtre en vous traînant une tristesse, un abattement, une dépression aussi forte que peut provoquer un match de football dans ces conditions-là. Avec ce sentiment d'avoir approché le rêve, en même temps que ça s'est brisé, il y a des récriminations terribles contre l'arbitre, contre les Allemands, etc. Ça nous tombe dessus. Et donc ça crée un autre récit. C'est le récit de cette défaite-là, qui va être transmis, où les adultes d'aujourd'hui qui étaient enfants en 82 se souviennent, soit même de leur tristesse à eux, ou ne comprenant pas très bien les enjeux, se souviennent parfaitement de leurs parents, pères, prostrés, abattus, qui est resté une semaine assis dans le fauteuil. Quoi.
Ça fait partie de la mémoire collective.
Et là, ça entre, ouais, ça écrit quelque chose.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Panier. En plein dans la corbeille. Naturellement, je loupe encore une fois le coche. Je n'étais pas obligée d'ailleurs. Le principal, c'est que je joue mon rôle de femme joyeuse. À propos du sport et de la femme, il me faut dire la chose suivante. La femme doit être belle. Car comme le sportif, elle se produit exclusivement dans son corps. Sinon, en effet, elle serait tout le temps absente et l'on ne verrait pas comme elle est séduisante. Une telle parole, il faut qu'elle soit introduite au préalable dans sa solution alimentaire personnelle, au moyen de la pipette par un dieu.
Sinon, tout cela... Le foot, Massimo Furlan, stimule les gens de théâtre. Ce que vous entendez là à l'instant, c'est une fiction qui a été enregistrée en 1998 au musée Calvet à Avignon. Elle est signée Elfriede Jelinek. Elle s'appelle « Plus vite, plus haut, plus fort », devise des Jeux Olympiques. Et c'est une fiction dans laquelle Elfriede Jelinek prenait justement comme thème d'étude le sport et établissait toutes sortes de parallèles entre le sport et le théâtre. Je voulais vous la faire entendre parce que il y a quand même quelque chose, je pense, qui peut se corréler entre ce qui est du domaine du sport et ce qui est du domaine du théâtre, ne serait-ce que par une dimension première qui est la dimension du spectacle, du spectaculaire. Mais vous, ce qui est intéressant avec ce que vous faites et avec cette reconstitution qui était intitulée « Le cauchemar de Séville » et qu'on a pu voir à Colombes il y a 15 jours, c'est que justement, du spectaculaire, vous enlevez le contenu, vous procédez par amputation, vous videz. Je le disais, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas l'arbitre, il n'y a pas la présence de comédiens ou d'amateurs qui joueraient l'équipe allemande, vous amputez en fait. Et je me demandais pourquoi vous faisiez ça. Est-ce que c'est pour faire apparaître d'autres enjeux propres au sport, au foot ou propres au théâtre ?
D'une part, ça fait apparaître la question du jeu, c'est-à-dire la question du mouvement, la question des règles. Et bien sûr, ça fait réapparaître la question de la mémoire et de la reconstruction, c'est-à-dire la partialité chez le spectateur. C'est-à-dire que c'est une proposition qui est faite au spectateur. Et donc, le spectateur, lui, va, d'une part, avec son vécu, ce qu'il connaît de cette histoire-là, et même s'il ne la connaît pas du tout, il va pouvoir la découvrir entièrement, vivre avec toute l'émotion, on va dire, de l'époque, cette histoire à nouveau contée. Et celui qui connaît va reconstruire, va combler les vides. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est aussi de laisser la place, quoi. Et donc, j'ai enlevé le plus possible, on va dire, pour que le spectateur puisse s'y projeter aussi une part de son imaginaire et de lui laisser aussi la possibilité, voilà, de reconstruire à sa façon ce match-là, en l'occurrence, quoi. parce que là, il y a tout un travail qui est fait aussi avec les gens à Colombes et tout sur le corps normal, quoi. C'est-à-dire cette incarnation de l'athlète et tout et de son cheminement, parce que il est aussi singulier et aussi intéressant de voir comment un joueur se déplace et quand il agit, quand il acte, quand il se retire, quand il récupère, enfin, etc., etc. Et donc, en enlevant des éléments en fait de ce jeu, on peut faire réapparaître d'autres parties, d'autres facettes, quoi.
Mais est-ce que vous ne travaillez pas sur le vide pour induire aussi, Massimo Furlan, une sorte de critique au fond de ce qui est devenu le foot aujourd'hui, qui n'est que justement du trop-plein, que du surplus, que de la saturation. Saturation de gestes sur le stade de foot, parce que vous parliez tout à l'heure de vous, comédien, footeur en chambre et comédien, mais s'il y a bien des comédiens aujourd'hui de premier plan, c'est les joueurs de foot qui en font beaucoup, qui se roulent par terre, qui lèvent les bras, qui sont scandalisés. Enfin, ils jouent une véritable comédie, tragicomédie.
Oui, il y a toutes sortes de codes et de gestes, etc. Mais vous avez raison, bien sûr, de surjeu et surtout de surreprésentation, de focalisation, etc. C'est vrai qu'en prenant, par exemple, ben justement, le choix aussi de 82, c'est que c'est aussi un moment, on va dire, un peu charnière. Et moi, j'écoutais le football. Parce que ce que je disais pas, c'est que j'avais une petite radio et parfois j'arrivais, pas toujours, à entendre les récits en direct des radiochronistes italiens. Et donc, il me manquait les images. Et donc, je les imaginais. Et cet exercice-là était aussi formidable, parce que toutes les parties, tous les matchs étaient absolument dantesques et magnifiques.
Le ballon célèbre dans la surface de réparation, Marius Trésor, et qui meurt ! Reprise de volée de Marius Trésor qui meurt ! Reprise de volée de Marius Trésor qui marque un but absolument extraordinaire ! Un coup franc d'Alain Giresse.
Alors qu'en réalité, peut-être, le journaliste a inventé la moitié des événements, ou en tout cas les magnifiait, quoi. Et à un certain moment, voilà, ça bascule, on se rend compte d'une part que les gens aiment regarder le football, que ça apporte beaucoup d'audience, etc., etc. Et aujourd'hui, on est, c'est vrai, dans un monde du football qui est de l'entertainment, au-delà de ça, des joueurs extraordinaires de qualité physique et technique, bien sûr, mais entourés dans un monde où l'économie prime quand même. Il y a donc une proposition qui est un flux continuel d'images. Et aujourd'hui, un match ne se filme pas à moins de je ne sais pas combien de dizaines de caméras et on captera le moindre détail. On reviendra. D'ailleurs, les réalisateurs font quelque part déjà œuvre de fiction presque pendant le direct. Lorsqu'on repropose des ralentis, on va commencer déjà à construire une émotion, enfin une tension, etc., etc. Donc on est là aujourd'hui dans une orgie d'images. Et au fond, c'est vrai que je montre exactement le contraire. C'est volontaire parce que moi, en tout cas, enfin à titre personnel, aujourd'hui j'ai beaucoup de peine avec cette surreprésentation du football, de l'actualité, du quotidien, des matchs tous les jours, etc. J'ai beaucoup de peine avec ça. D'ailleurs, je regarde presque plus de football, à part quelquefois je me dis, bon là, en l'occurrence, il y a l'équipe d'Italie qui joue, mais je déteste le football, je déteste comment va l'Italie, jusqu'à 3 minutes avant, et tout d'un coup, j'avoue, là de nouveau, avec un peu de honte, lorsque le jeu commence, quelque chose se passe, quoi. Et c'est d'ailleurs peut-être la même chose qui se passe au théâtre. Lorsque vous entrez, que vous pouvez vous assister à quelque chose de formidable, où vous êtes pris et vous oubliez aussi.
Mais justement, est-ce que vous pensez, Massimo Furlan, que peut-être en se reconnectant avec ce qui est de l'ordre d'une culture populaire extrêmement partagée, le foot, le théâtre, se reconnecterait aussi avec un public se connecterait d'ailleurs tout court avec un public qui ne vient pas le voir. Je dis ça parce que lorsque Mohamed El-Khatib, cette saison, a présenté au Théâtre National de la Colline, au lieu des écritures contemporaines, ce spectacle qui s'intitulait Stadium et qui mettait en face du public de la Colline des supporters du Racing Club de Lens, ça n'a pas plu à tout le monde parce que tout à coup, il y avait profanation d'un lieu par des gens qui, visiblement, n'auraient pas dû y être.
Bon, d'une part, moi, je trouve le travail de Mohamed absolument passionnant. Là, c'est vrai qu'il est sur le terrain du football qu'il va emmener. Moi, c'est vrai que j'emmène les spectateurs.
Moi,
C'est l'inverse. C'est-à-dire, moi, j'ai un questionnement qui se fait pas d'ailleurs que par rapport à cette performance-là, mais d'une manière plus générale, sur la question de la place du spectateur et de l'expérience même du spectateur avec différentes tentatives, essais, expérimentations. Une de celles-ci, c'est vrai, c'est cette performance du football ou de dire aux spectateurs de théâtre, entre dans le stade. Et d'ailleurs, selon le pays dans lequel on travaille, très peu de spectateurs de théâtre sont entrés dans un stade. Dans certains pays, c'est beaucoup plus commun quoi, d'aller au stade et d'aller au théâtre. C'est pas, y a pas débat, quoi. On va aux deux, quoi. Parfois, ben, comme en France, par exemple, le public franchi arrive dans un stade, n'a jamais mis les pieds dans un stade. Et il y a une expérience qui est proposée ensuite sur la radicalité aussi du temps, c'est-à-dire la durée qui est totale et intègre, etc., par rapport à la performance. Après, moi, je me souviens, lorsque j'ai créé ça en 2002, c'est la première performance, s'appelait Furlan numéro 23, il y avait débat, quoi. Moi, j'étais même pas au courant, mais il y avait débat, c'est pas du théâtre, quoi. Ça ne peut pas raconter quelque chose, etc. Et vous imaginez de quel côté je me place, quoi. Je pense que ça questionne le théâtre. Et je pense que c'est bien d'aller provoquer. Il y a plusieurs manières de le provoquer. Moi, je le provoque avec cette solitude, ces éléments posés dans un stade de reconstitution, de prendre le récit, etc. Ça peut provoquer effectivement des réactions. Mais à chaque fois, d'ailleurs, il y a ce débat qui se repropose. C'est pas possible, ou en tout cas, mais comment est-ce possible ?
Mais que vit Massimo Furlan quand il rentre tout seul sur un terrain de foot, le Parc des Princes en l'occurrence, il y a quelques années, avec ce dossard numéro 10, et que tout seul, absolument tout seul sur le terrain de foot, il va refaire le match de Michel Platini. 2 fois 45 minutes, plus les tirs au but. Massimo Furlan, est-ce que vous retrouvez quelque chose de la jubilation de l'enfant et l'adolescent qui faisait tout dans sa chambre de gamin?
Absolument pas. Je trouve le cauchemar, je trouve l'inverse, je trouve la souffrance physique, c'est-à-dire sur 2 heures, malgré la préparation. Hein, parce que cette performance, elle implique une préparation physique. C'est-à-dire, je peux pas dire, tiens, je vais rejouer ce match-là et puis le lendemain, je le fais. C'est impossible. Je dois me préparer, je dois m'entraîner, enfin, etc., pour arriver à tenir, quoi.
Vous avez juste dans l'oreillette les consignes de déplacement que vous avez enregistrées. Hein. Vous savez exactement où devez être,
mémoire,
à quel moment.
Pour ma mémoire, j'ai effectivement mon propre commentaire extrêmement précis qui dit, attention, dans 10 secondes, partir sur la droite, démarrer, revenir vers les 16 mètres, dans 15 secondes, il y a le tir au but où je tombe, enfin, etc., qui me permettent de révisualiser l'action. Parce que dans la préparation, j'ai revu et vu et revu encore le match, l'archive, pour essayer de chaque fois essayer de préciser. Ce qui d'ailleurs m'a pas empêché une fois au Parc des Princes, lorsque Platini subit une faute, tombe par terre, roule par terre, je tombe, je roule par terre, je me relève et je pars dans le faux sens. Quoi. Et en 2006, au Parc des Princes, pendant quelques minutes, je jouais toujours Platini, mais à l'envers. Quoi. Jusqu'au moment où on m'a averti, parce que les lumières du stade étaient très symétriques, hein, circulaires comme ça, donc j'avais complètement perdu l'orientation, parce qu'aussi, physiquement, c'est tombé. Vous faites mal à chaque fois, évidemment, parce que j'ai pas l'âge du joueur que je joue. J'ai déjà un corps usé qui n'est pas encore de sportif et tout, et donc il y a une maltraitance terrible. Et le spectateur voit ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très burlesque, de voir ce corps normal qui incarne le corps héroïque, et quelque chose aussi de touchant, de particulier, de voir sur la durée. C'est-à-dire que c'est pas qu'on fait quelques extraits et ensuite on va en loge. Non, c'est la durée totale. Et puis au moment où j'entre sur le terrain, la scène me paraît très très grande,
oui,
immense, et j'ai peur de me faire mal.
Est-ce que les membres de cette équipe de 1982 sont venus voir le match? Le vôtre ou celui qui a été
Alain
joué
Giresse,
à Colombes,
oui,
à l'initiative du théâtre
après,
de la Mancène. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Massimo Furlan?
Il a écouté avec fascination, on va dire, comme ça, ce projet, quoi. Après, les véritables protagonistes, c'est leur cauchemar, quoi. C'est le véritable cauchemar. En 2006, la performance était formidable parce que nous étions deux, en fait, sur le terrain. Enfin, moi sur le terrain et au bord du terrain, il y avait Michel Hidalgo. Et Michel Hidalgo, c'était l'entraîneur de cette équipe de France formidable, de cette demi-finale. Et il a accepté d'être là et de revivre entièrement ce cauchemar, quoi. Et ça a donné une personne magnifique qui est venue et que Didier Roustan avait convaincu d'être là, etc. Didier Roustan commentait ce soir-là au Parc des Princes. Et Michel Hidalgo était formidable parce qu'il m'a dit tu peux me demander tout ce que tu veux sur ce match-là, je te raconte, je t'explique, j'ai pris mes notes et tout, etc. Et ensuite, il s'est fait, prendre aussi par le récit à nouveau et aussi par mon effort de reconstituer le chemin de Michel Platini. Et donc, il me coachait, il me disait vas-y, tu peux tenir et tout. Et à la fin, c'est-à-dire à cette fin terrible, cette fin d'une tristesse et d'une injustice incroyable. On était les deux. Moi, j'étais épuisé d'effet. J'avais l'impression véritablement d'avoir perdu cette demi-finale. Et je le voyais comme à l'époque, il est allé sur le terrain chercher les joueurs pour les faire retourner dans le vestiaire. Il venait là vers moi. Et c'est un moment, je dois dire, absolument extraordinaire d'émotion.
Rubens qui prend son élan et qui marque, et voilà! Et les Allemands iraient en finale de la Coupe du Monde, et les Français sont éliminés.
Une dernière question, Massimo Furlan. Moi, j'ai le sentiment que vous avez, avec ce cauchemar de Séville, interprété d'abord par vous, puis interprété par des personnes qui étaient sur le stade de Colombes, à l'initiative, je le redis, du théâtre de l'avant-scène à Colombes, que vous avez, au fond, initier un concept qui peut se décliner avec ses variantes. Alors, ça peut se décliner avec des enfants, ça peut peut-être même se décliner avec les anciens joueurs de cette équipe, s'ils acceptent de revivre le cauchemar, mais ça peut aussi se décliner en rajoutant du texte, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez aussi demander à des acteurs de faire cette partition, de porter cette partition, de jouer 90 minutes, tout en déclamant, je ne sais pas, du Racine, du Shakespeare, quand il marque des buts.
Pourquoi pas ? Je n'ai pas pensé à ça. Ce que je trouverais, par exemple, intéressant par rapport à la gestuelle, au déplacement, enfin, etc., par exemple, ce serait de travailler cette partition avec, par exemple, des danseurs de l'Opéra de Paris. Là, il y a quelque chose qui m'intéresserait aussi de voir comment eux, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est comment on s'accapare l'objet, parce que cet objet, il est partagé. Donc, comment les autres aussi vont prendre ça? Après, faire 50 000 variantes, non. Bon, ça, évidemment, non, quoi. Mais celle-ci ou celle qu'on a expérimentée là à Colombes, c'est magnifique. C'est une chorégraphie pour 11 personnes, quoi. Et donc, évidemment, c'est pour ça que je pense aussi à des danseurs pour voir aussi quelle autre différence. Où est-ce qu'on va? Et là, on pourrait imaginer une très grande scène, non pas un stade, enfin, etc. Bon, il y a quelques semaines, j'ai enfin réalisé un de mes plus grands fantasmes par rapport à ce travail-là. J'ai fait le gardien de but. Quoi. J'ai joué Sepp Maier, le gardien de but de l'équipe ouest-allemande, dans le match contre l'Allemagne de l'Est d'ailleurs, et j'ai joué le gardien. Un spectacle d'un minimalisme incroyable, c'est-à-dire dans cet immense stade olympique de Munich.
Tout seul?
Alors,
il y avait pas les équipes, il y avait que le gardien.
Non, tragiquement, si je vous la raconte en entier, en fait, on était.
C'est ce qu'on appelle du théâtre intimiste, ça.
On peut le dire, ouais. On était deux en réalité. Moi, j'avais joué déjà l'attaquant est-allemand parce que c'est une victoire d'Allemagne de l'Est. Hein, c'est un match de 74. Et j'avais joué déjà ce joueur Sparwasser, Jürgen Sparwasser, qui marque le goal contre l'Allemagne de l'Ouest, contre cette manière. Voilà. Et donc, l'idée a été de demander à un acteur, la Volksbühne, d'origine est-allemande, s'il acceptait d'apprendre cette partition de l'attaquant est-allemand. Bref, on est deux en réalité sur le terrain. Mais on est deux pendant 3 minutes. Parce qu'à la 3e minute, je le vois démarrer et faire, comme dans le vrai match, un tacle. Sauf qu'il fait ce tacle, et donc c'était la première fois que quelqu'un d'autre entrait dans ma performance, si vous voulez. Il fait ce tacle, double fracture de la cheville. Il ne peut plus se relever. Après 3 minutes de jeu, c'était absolument incroyable. Enfin, d'ailleurs, tout le monde a pensé que c'était voulu. Enfin, voilà. Peu de gens se sont rendus compte que c'était un accident. Alors, heureusement, c'était pas un infarctus. Mais enfin, bon, il a dû être sorti sur civière, ambulance, etc. Et j'ai pris la décision, the show must go on. Voyant que ce n'était pas, il n'était pas en danger de vie, je me suis dit, ben voilà, parce que je l'avais déjà proposé ça une fois, je vais faire le gardien. Et pendant 87 minutes, je suis seul dans un stade de 80 000 places. C'était absolument insensé, quoi. Et le plus incroyable, c'est que les spectateurs étaient absolument stupéfaits et emballés par cette proposition minimale. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on.
Merci mille fois à vous, Massimo Furlan, d'être passé dans les studios d'une saison au théâtre, faire entendre un son, une parole, une conversation tout à fait inhabituelle, mais parfaitement réjouissante. Merci mille fois. On espère revoir le cauchemar de Séville un jour ou l'autre, avec danseurs, sans danseurs, avec enfants, sans enfants, peu importe. Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page d'une saison au théâtre. Ina Lopez, Duperron, Pierrick, Monsigny, Vanessa Nadjar, Joël Gayou vous salue. Bientôt 16h sur France Culture, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous. But it's been no bed of roses.